Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2,21 gigawatts, mon Dieu!
Recherche, scanner.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Drone, le monde est drone. Il est sûrement trop tard pour en faire un tube, mais le refrain est d'autant plus entêtant qu'il est vrai. Les aéronefs à télécommande sont partout. D'abord réservés à une clientèle fortunée, ils sont devenus en quelques années un produit de consommation comme les autres. Pour une trentaine d'euros dépensés dans les rayons de la Fnac, entre les appareils photo et les voitures télécommandées, on peut goûter aux joies de la voltige. Le hic, c'est que les drones servent autant à épater la galerie qu'à mettre la pâtée aux voisins d'à côté. On les connaissait caméramen, bolides de course, livreurs, on les découvre surveillants, militaires et de plus en plus autonomes. À tel point qu'ils commencent méchamment à nous faire flipper. Erwan Lecomte, l'expert drone de Science et Avenir, vient d'accomplir un atterrissage vertical impeccable devant mon micro pour répondre à toutes mes interrogations. Bonjour Erwan, alors, t'as fait bon vol ?
Super, l'héliport de 20 minutes est très confortable.
Super. Alors si t'es d'accord, pour poser un petit peu le décor, je voudrais qu'on s'attarde sur les résultats d'un sondage Harris Interactive, donc qui a été réalisé au mois de mai 2018. Si j'ai bien compris les résultats de l'étude, c'est assez partagé. D'un côté, les Français seraient à moitié favorables au développement des drones de loisirs, et de l'autre côté, ils sont 59% à considérer qu'ils sont dangereux et 40% à les trouver franchement effrayants. On peut dire que la relation entre les Français et les drones part d'un mauvais pied ?
On va dire qu'elle est compliquée et qu'elle tient surtout à une mauvaise information qui est pas forcément la faute des Français, mais qui est surtout la faute des appellations, parce que la notion de drone est toujours une notion extrêmement floue. Parfois même, elle est très floue dans le monde professionnel. C'est une grande famille, les drones, dans lequel vous pouvez mettre un peu tout et n'importe quoi. Vous pouvez mettre des machines militaires, où vous avez par exemple le Global Hawk, qui est un drone de surveillance qui fait 15 tonnes, qui fait 40 mètres d'envergure, qui est un drone de surveillance. Surveillance militaire. Vous pouvez mettre les Predator, qui sont des drones armés qui tirent des missiles, qui ont été remplacés récemment et qui équipent l'armée française aussi et qui a décidé de les militariser avec leur version supérieure qui est les Reaper. Donc ça, c'est des drones très flippants qui peuvent faire pleuvoir une menace sur vous n'importe quand, qui sont très utilisés sur les théâtres d'opération. Et à côté de ça, au rayon jouet de tout un tas de grandes enseignes, vous trouver sous l'appellation drone des espèces de petits engins à moins de 100 € qui sont des espèces de picouzes améliorées, des petits engins volants comme ça qui ont l'appellation drone qui en réalité n'en sont pas. On parle aussi parfois de drones quand on parle des voitures autonomes, parce que ce sont des engins qui peuvent fonctionner sans pilote. On parle aussi de drones d'exploration sous-marine. Donc il y a une confusion totale de la part du public. Donc je pense qu'il faut d'abord définir ce qu'est un drone. Pour moi, un drone, c'est un engin mobile. Il est équipé de capteurs et ces capteurs lui permettent d'analyser son environnement et d'y réagir et de prendre des décisions sans que son opérateur ait quelque chose à dire. Par exemple, quand vous avez un drone qui va refuser de foncer dans un mur parce que ses capteurs l'ont détecté devant, voilà, c'est un drone, il est capable de prendre une décision tout seul. Quand il dit « je vais revenir à ma base parce que j'ai plus assez de batterie », un appareil capable de faire ça est un drone parce qu'il peut prendre cette décision-là. En revanche, les petits jouets que vous trouvez qui tombent dès que vous lâchez les commandes, non, ce n'est pas des drones.
Ouais, c'est des voitures téléguidées avec des hélices, quoi.
Oui, absolument. On est dans de l'aéromodélisme. C'est un loisir qui est très noble, mais on n'est pas dans du drone avec de l'intelligence embarquée. Si
ce doit être un hippocampe papillon.
Naturellement.
Hop.
Et quand on regarde un petit peu justement l'industrie française au niveau du drone, quand on a préparé l'émission, tu me parlais justement de Parrot qui joue un peu son va-tout cette année. Et j'ai cru comprendre également que d'un autre côté, GoPro, lui, se retirait de la course au drone, enfin, donc arrêtait d'en produire. Qu'est-ce qui se passe un peu aujourd'hui sur le marché du drone ?
Alors, ce qu'on observe sur le marché du drone, c'est surtout une restructuration. C'est-à-dire, Parrot est arrivé très très tôt avec une machine qui était formidable. Quand il est arrivé avec son AirDrone, c'était en 2010, c'était une vraie révolution parce que justement, on n'avait que les picous dont je vous ai parlé. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'est ces petits hélicoptères. Fallait les lester un petit peu à l'avant. Vous pouvez juste les faire décoller ou avancer. Et pour la direction, c'était totalement aléatoire. Ils terminaient toujours derrière le frigo. Voilà. Donc là, vous aviez un engin qui était pilotable avec votre smartphone, c'était vraiment une. Il y avait une caméra, on pouvait voir l'image du drone sur le smartphone, c'était génial. Sauf que Parrot a mis un peu de temps à se renouveler, il s'est un peu endormi sur ses lauriers et le marché est devenu très très vite ultra concurrentiel. Il y a tout un tas d'acteurs asiatiques qui sont arrivés, notamment DJI qui très rapidement est arrivé avec du matériel de qualité. Ils se sont emparés de 80% du marché. Entendez. Voilà. Et donc, du coup, c'était très difficile pour Parrot de réagir. Et ils ont essayé de se diversifier à la fois dans le monde professionnel, notamment de l'agriculture, ou dans le monde très grand public avec ces petits jouets dont on parlait. Et là, ils tentent avec l'Anafi, qui est leur nouveau drone qui va sortir en 1er juillet, de revenir sur ce secteur dont ils s'étaient fait un petit peu bouter par les autres machines. Et bon, bah, on va voir ce que ça donne. Ils misent un peu sur le prix. Quant à GoPro, eux, c'est vraiment un problème matériel. C'est-à-dire qu'ils ont lancé trop tôt une machine pas bien finie qui ne correspondait pas aux attentes du public et qui s'est cassé la figure. Mais on ne peut pas dire que l'âge d'or du drone de loisir est passé. Non, il arrive.
Pourquoi il ne décolle pas ce putain d'avion?
Vous avez remarqué, vous aussi.
Ah, la hype du coup du drone n'est pas du tout passée.
Absolument pas. De mon point de vue, on est un peu face au phénomène smartphone. C'est-à-dire, il y a quelques années, quand l'iPhone est arrivé, on se disait, ouais, bon, c'est un gadget de geek. Moi, mon téléphone avec des touches, il est très très bien. Voilà. Et regardez où on en est aujourd'hui. Il n'y a plus un seul téléphone à touches ou très très peu. Tout le monde est sur des smartphones. Les drones sont dans cette optique-là. Il y a énormément de drones selfie qui se vendent, des drones de poche que vous sortez. Ils n'ont pas des fonctionnalités incroyables qui leur permettent d'aller à 2 km et d'être extrêmement automatisés. Mais là, vous avez un appareil qui peut tourner autour de vous, qui peut faire des panoramas à 360 degrés, qui permet de faire, plutôt que d'avoir la perche à selfie ou de tendre la main, vous êtes avec tous vos amis, vous lancez votre drone, vous faites une photo, vous le ramassez. C'est quelque chose qui, du fait de sa massification à laquelle on assiste là en ce moment, va devenir vraiment extrêmement, extrêmement mainstream. Il y avait quelques chiffres du marché qui étaient sidérant. Les dépenses mondiales en robotique et en drone, c'est 103 milliards de dollars en 2018 et c'est un marché qui augmente de 25% par an. Donc on est à peine à l'aube de ce qui nous attend pour les drones.
Que là, vous venez d'assister au démontage en règle hein, des questions à venir que j'avais préparées. Moi, je pensais évidemment que la hype était un petit peu en train de retomber du côté des drones et qu'au contraire, ils étaient en train de relancer une sorte d'opération de reconquête parce que effectivement, quand je tape drone sur Google, on pense d'abord aux drones militaires ou à des drones utilisés à des fins criminelles. On parlait, il y a quelques années, je crois, il y avait eu des livraisons d'armes dans une prison via des drones. Et finalement, on parle vachement plus de ces utilisations-là frauduleuses et criminelles que des utilisations de loisirs ou des drones sauveteurs, par exemple.
Ça, c'est parce qu'on ne va pas assez sur Science et Avenir, où on parle justement de toutes les applications. Non, c'est vrai que les drones, comme toute nouvelle technologie, peuvent être détournés. Mais c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Mais par exemple, quand la voiture est arrivée sur le marché, la première voiture piégée a été utilisée en 1905. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement ancien. Pareil pour les avions. Le premier détournement d'avion, c'est en 1931. Et pour les drones, ça débarque au début des années... des années 2010, on va dire, et c'est en 2011 que les États-Unis ont pour la première fois arrêté quelqu'un qui projetait de lancer un drone bourré d'explosifs contre le Pentagone et le Congrès. Donc oui, ce sont des machines qui peuvent être détournées de leur usage pour une utilisation terroriste. On le voit sur les champs de bataille. Daesh, notamment, s'est fait une spécialité du bidouillage de drones. Ils prennent des drones civils, ils les équipent de grenades et ils les utilisent pour larguer des bombinettes pour semer la confusion chez l'ennemi. C'est un des usages maléfique qui peut être
parmi,
fait,
d'autres.
Parmi d'autres, mais le secteur du drone civil dans ses applications bénéfiques, on est en train de le découvrir. Et on est en face d'un écosystème où il y a une multitude d'usages très spécialisés auxquels on n'a pas forcément pensé et qui sont en train de se répandre de manière massive. Il y a plein d'expériences en cours.
Je vole comme un aigle royal, je vole au-dessus des lois, je vole quand j'ai faim, c'est bien normal.
Et les craintes qui se soulèvent quand même autour des drones, est-ce qu'elles sont pas liées justement au fait que ben on n'est pas habitué à avoir cette menace, alors je le mets évidemment entre guillemets, mais venue d'en haut, c'est-à-dire que effectivement on regarde pas le ciel et on pense pas du tout aux drones comme menace potentielle.
Alors là aussi, il faut bien faire le distinguo entre les drones militaires et les drones civils. D'abord, quand vous êtes dans une zone de guerre où il y a des prédateurs, des reapers qui tournent au-dessus de vous et à n'importe quel moment, vous pouvez vous prendre un missile, oui, il y a ce côté un peu châtiment divin qui arrive de n'importe où et vous pouvez être exterminé. Après, il faut savoir que sur l'aspect militaire, les drones, ça n'est qu'une fraction de leur usage. Vraiment, le plus gros et ce en quoi c'est un élément clé sur le champ de bataille, c'est surtout le renseignement, c'est la coordination des troupes. Vous passez d'une vision vraiment au sol où vous n'avez pas de profondeur, vous ne savez pas où est l'ennemi, vous devez vous fier à vos communications pour repérer vos troupes. Là, vous avez une vision de type jeu vidéo. Vous voyez le champ de bataille d'en haut, vous coordonnez super facilement les mouvements des troupes, vous savez où est l'ennemi. Les militaires sur le terrain ont aussi des petites machines qui peuvent aller voir derrière la colline ce qui se passe avant d'envoyer une reconnaissance. Les troupes peuvent dormir sur le terrain, surveillées par des drones de haute altitude qui surveillent le mouvement des ennemis et limite le risque d'embuscade. C'est plus ce côté renseignement qui est important. Après, dans le civil, si on veut parler des nuisances, pour moi, la nuisance, elle est plus dans le côté sonore. C'est-à-dire, vous êtes dans un superbe paysage, vous voulez profiter un peu de la vue et vous avez une grosse bébête qui vrombit à côté de vous, ce qui peut être désagréable. Mais à contrario, ça peut être une manière aussi pour vous d'aller découvrir autrement des paysages, découvrir des lieux désertiques en vous mettant dans la peau d'un oiseau.
Comme un rossignol.
Oh, il s'envole, il s'est envolé.
Mais tout à l'heure, tu parlais d'utilisation militaire. Il y a plusieurs philosophies, je vais dire, sur l'utilisation des drones qui se confrontent un petit peu. On parlait tout à l'heure de l'armée américaine qui travaille sur un drone justement qui s'appelle le Black Hornet, qui est un mini-drone. Et à côté de ça, on a l'armée israélienne qui, elle, investit plutôt un drone vraiment limite kamikaze.
Alors, les deux existent depuis longtemps. Hein. Ce côté drone miniature de poche qu'on emmène pour aller voir ce qui se passe derrière les lignes ennemies ou juste faire du repérage autour d'un bâtiment, l'armée de terre utilise ça depuis très longtemps. Quant aux drones kamikazes en eux-mêmes, c'est pas tellement une nouveauté. C'est-à-dire une machine capable d'aller utiliser ses capteurs pour repérer une cible et aller la frapper, et ben, c'est un missile. Et on a ça depuis super longtemps et ça va beaucoup, beaucoup plus vite qu'un drone. Donc le drone en tant qu'arme offensive, arme explosive ou même qui va larguer des bombes sur le terrain, c'est pas ça qui est un élément clé sur le champ de bataille. Faut pas oublier que alors quand on parle des drones civils, on a une capacité d'emport dans les airs qui est très limitée. On parle de quelques kilos, donc c'est pas avec ça que vous allez exterminer un bataillon entier. C'est plus pour semer la confusion que vraiment être une arme offensive extrêmement dangereuse.
Alors j'arrêterai là après sur la partie militaire, hein, mais on va croire que je fais une fixette. Mais est-ce qu'on peut envisager, et j'ai cru comprendre que c'était d'ores et déjà un peu le cas, des batailles justement de drones entre eux? C'est-à-dire qu'on aurait sur le champ de bataille des drones qui s'affronteraient pour les deux camps?
C'est déjà le cas sur le terrain, des armées qui utilisent, ou les deux camps utilisent des drones pour repérer où est l'ennemi et de temps en temps pour larguer des bombes dessus. C'est ce qui se passe en Syrie, c'est ce qui se passe en Irak. Après, au niveau militaire, il y a encore un secteur où les drones n'ont pas donné leur plein potentiel, c'est les drones de combat, les UCAV, ce qu'on avait en gros, ce sont des chasseurs furtifs dronisés. Parce que là, pour l'instant, ces machines sont surtout, ce sont des drones furtifs, mais qui ne sont pas encore extrêmement véloces. Et face à un chasseur, ils ne font pas le poids. Quand on aura perfectionné, et ça va venir, leur vitesse, leur capacité de réaction, vous pourrez vous affranchir des contraintes liées au pilote. C'est-à-dire, sur un avion de chasse, vous ne pouvez pas accélérer au-delà d'une certaine vitesse. pas faire certaines manœuvres parce que le corps du pilote ne supporte pas ou parce qu'il risque de s'évanouir avec les fameux voiles noires ou voiles rouges en fonction de dans quel sens il se prend léger de l'accélération. Si vous parvenez à faire la même chose avec un drone, avoir la même vélocité, vous n'avez plus que les contraintes mécaniques liées à l'appareil lui-même. Et là, vous pouvez avoir des machines très 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 efficaces.
100K ?
Oui, je sais, c'est moi le pilote.
Non, toi je te mets au frein.
Non, c'est moi le pilote.
On va quitter Tom Cruise et Top Gun pour revenir un petit peu sur le plancher des vaches. L'Union européenne travaille pas mal, hein, je crois, en ce moment sur un cadre protecteur des cieux vis-à-vis des drones. Est-ce que ce cadre-là, tu peux nous le présenter rapidement et nous dire si, de ton point de vue, il est assez protecteur ?
Absolument, ça a commencé fin 2014 quand il y a eu une vague de survol de drones. C'est une vague de survol qui a concerné des centrales nucléaires, des bases militaires et certaines grandes agglomérations. Et là, les autorités se sont rendues compte qu'il y avait un problème. Ils étaient face à une menace potentielle qu'ils ne pouvaient pas arrêter parce qu'un drone, c'est très furtif, ça arrive très vite, ça repart très vite. Le temps que vous préveniez la gendarmerie ou qui que ce soit, ben, il est déjà parti. Et s'il n'est pas parti, de toute façon, vous ne pouvez pas faire grand-chose sur place. Donc, il y a eu un appel à projet qui a été lancé par l'ANR pour le compte de la SGDSN, qui est donc le Secrétariat Général à la Défense et à la Sécurité Nationale. L'objectif était de mettre au point très rapidement des dispositifs techniques pour identifier, localiser et neutraliser des drones civils qui arriveraient. C'est une mission qui est extrêmement difficile parce que techniquement, un drone, ça ressemble beaucoup à un oiseau. Il y a beaucoup de faux positifs. On arrive assez bien à les repérer avec des lasers, avec des radars. Il y a tout un tas de technologies militaires qui ont été adaptées du coup à la configuration particulière de ces machines qui sont souvent en plastique, pas tellement en métal, donc difficile à repérer. Pareil, qui chauffent beaucoup moins que des drones militaires où on est sur une typologie qui est plus de type avion. Et pour la neutralisation, ça a été aussi extrêmement difficile de trouver comment arrêter des machines qui représentent un tout petit point. C'est beaucoup plus difficile en réalité que de les tirer au fusil en fait. Ça marche très très mal et en plus vous risquez de blesser quelqu'un. Donc il y a des technologies qui ont été développées pour leurrer leur GPS, pour brouiller leur communication. Et aujourd'hui, ça a été mis en place très rapidement et toutes les grandes manifestations sont protégées par tout un tas de dispositifs complémentaires qui permettent justement de surveiller les menaces aériennes. Donc au niveau protection, la recherche continue, mais on a déjà un premier matelas qui nous protège à ce niveau-là. Et après, côté utilisateur et côté droniste, les autorités, ont plutôt bien fait les choses parce qu'on n'est pas dans des contraintes brutales en disant « il est interdit de survoler, si on vous surprend avec un drone, vous allez en prison, on vous confisque votre matériel ». On est plutôt dans de l'accompagnement, dans de la pédagogie, il y a des notices explicatives qui sont fournies, il y a une très très bonne carte qui est disponible sur Géoportail où vous pouvez voir exactement où vous pouvez voler, à quelle altitude, avec toutes les zones restreintes. Et les constructeurs commencent à jouer le jeu d'intégrer dans le firmware, c'est-à-dire le micro-logiciel de leur machine, des zones ce qu'on appelle des no-fly zones, où votre machine refusera de rentrer ou refusera de décoller si vous êtes dans une zone interdite. Alors ça, c'est pour les plus perfectionnés. Ou à minima, il vous informera en disant « attention, là, normalement, il n'y a pas trop droit. Signer les 12, cocher les 12 cases, disons « j'accepte toutes les responsabilités si je le fais ». Donc au moins, l'utilisateur le fait en connaissance de cause et peut peut-être réfléchir à « moi, c'est... je suis à côté d'un aéroport, peut-être il vaut mieux pas, c'est pas une bonne idée ». Voilà.
Ok. Par exemple, est-ce qu'à Paris, j'ai le droit de faire voler mon drone dans un parc, ce genre de choses ?
En agglomération, c'est interdit, même dans un parc où a priori, il n'y a personne, même si les conditions vous paraissent être remplies. Si vous êtes dans une agglomération, c'est strictement interdit. Il faut vraiment... consultez cette carte sur Géoportail pour voir où vous pouvez voler. En région parisienne, il y a des forêts au-dessus desquelles vous pouvez voler à 60, 80 mètres sans trop de soucis. Et à contrario, il y a des endroits aux côtés de Brest où vous pouvez voler nulle part. Il y a des bases militaires partout. C'est impossible de voler par là. Mais donc, systématiquement, préparez-vous quand vous voulez aller dans une zone. Jetez un petit coup d'œil et vous pourrez voir ce que vous avez le droit de faire.
Vol et ne me déçois pas.
Ouais, donc en fait, ouais, le cadre législatif est assez précis. Et est-ce que du coup, ça te paraît jouable qu'un jour Amazon se mette vraiment, alors on l'évoquait déjà l'an dernier, à livrer quotidiennement des colis via des drones ?
Alors, techniquement, c'est faisable. Le premier projet en la matière, il date de 2014 avec DHL qui a livré des médicaments en Allemagne sur l'île de Juist, à 12 km des côtes allemandes, avec son parcellcoptère. Et tout le monde leur a emboîté le pas par la suite. Il y a eu Walmart, Alibaba, La Poste, Maternet, donc Google et Amazon qui se sont lancés dans ce type de test. Et chose qu'on ne sait pas forcément, il y a même en France une ligne régulière de livraison par drone qui a été ouverte dans le Var en décembre 2016. Donc ça relie deux petites zones entre les Saint-Maximilien-la-Baume et à Pourrières, où il y a une pépinière d'entreprises, où il y a une petite douzaine de startups. C'était une zone apparemment extrêmement difficile d'accès. Les véhicules mettaient très longtemps à y arriver. DPD Group, la filiale de La Poste, a mis en place ce système de livraison régulier. Donc on n'est pas encore sur de la livraison fluide à la manière d'une livraison de pizza. On est sur de la livraison point à point où chaque vol est déclaré auprès des autorités aériennes. On sait où va aller la machine. Là, le problème de livraison de pizza dans votre jardin ou de livraison de colis par Amazon, c'est que vous ne pouvez pas déclarer un plan de vol à chaque fois, sinon le livreur a le temps de venir chez vous, de regarder un IVX et de repartir. Et en termes de... Ça pose tout un tas de problèmes législatifs, de qu'est-ce qui se passe si votre drone tombe sur quelqu'un. Ça pose tout un tas de problèmes techniques, de qui va les piloter. Est-ce que vous mettez un pilote derrière chaque drone? En cas d'accident, qui est responsable? Est-ce que c'est le constructeur de la machine? Est-ce que c'est le programmeur du micro-logiciel? Est-ce que c'est l'IA, si c'est l'IA qui le pilote? Donc, on n'en est pas encore là. Les projets les plus avancés qu'on a, c'est Domino's Pizza, qui, en Nouvelle-Zélande, fait des tests sur le terrain à grande échelle de livraison de pizza. Il y a des grands jardins où vous pouvez sans problème aller livrer quelque chose chez des particuliers. En ville, après, chez nous, les problématiques sont aussi d'ordre financier. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est technologiquement faisable que c'est intéressant et que c'est viable. Si vous mettez 3 heures à rentrer votre pizza dans le logement de drone et que vous livrez une pizza à 20 euros avec une machine qui en coûte 1000, que vous risquez de la cracher, de vous la faire voler à l'arrivée, ça vaut pas forcément vraiment le coup.
Ouais, et puis s'il pleut, s'il vente, enfin, il y a quand même pas mal de conditions qui viennent en plus perturber le vol. Hein.
Qui compliquent le pilotage, bien que maintenant, il faut vraiment qu'il y ait une grosse tempête pour que le drone puisse pas voler.
Et en termes d'encombrement du ciel ou en termes de nuisances sonores, la possibilité d'avoir des livreurs drones, ça te fait pas du tout flipper?
Tout dépend de la fréquence. Encore une fois, c'est le ciel est très vide pour l'instant et à mon sens, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Le problématique sonore d'avoir un ciel encombré de drones, je pense que si vraiment c'est un problème, ça ne sera pas adopté. Les gens protesteront et n'utiliseront pas ce service. Et du coup, il tombera lui-même. Il y aura une sélection qui va se faire de cette manière-là. Mais ce problème d'encombrement du ciel n'arrivera pas avant qu'on ait réglé tout un tas d'autres verrous technologiques ou législatifs qu'il faudra régler bien avant.
C'est toi qui es piqué.
Oh, je suis le bourdon. Bon, débrouille-toi. Vole tes propres ailes.
Alors là, je vais mettre la charrue avant les bœufs robotique parce que on va partir un petit peu dans le monde de la SF. Dans le film Ready Player One, donc l'adaptation par Steven Spielberg du livre d'Ernest Cline, on peut voir à un moment des drones de surveillance. Alors des drones automatisés hein, qui servent un petit peu de caméra de surveillance autonome. Est-ce que toi, ce genre de choses, on s'est bien habitué à être filmé en permanence dans certaines villes, hein, Londres par exemple, regorge de caméras de surveillance. C'est une éventualité qui te paraît plausible?
Là encore, techniquement, c'est faisable. On a eu la preuve début juin où il y a eu un papier qui a été publié par une équipe de recherche, c'était britannico-indienne, où en gros, ils ont équipé un drone très très simple d'un système d'intelligence artificielle. Donc les images du drone sont transmises à un ordinateur qui analyse les images transmises par le drone et le drone survole des foules. Donc l'IA reconstitue les membres de la foule sous forme de bonhomme bâton et est capable de détecter les comportements violents. Donc à partir de l'analyse de position, l'analyse des interactions et des mouvements, elle est capable de dire « Ah, cette personne est en train d'agresser tel autre, il faudrait intervenir ». Donc ça ne marche pas encore super bien. Ça marche très bien sur des groupes de 10 personnes où il n'y a qu'une personne qui agresse une autre. Là, vous êtes à 94% d'efficacité. Mais dès que la foule augmente ou dès que si c'est une émeute généralisée, le drone est comme n'importe quel opérateur, il est complètement perdu dans les images. Bon, c'est des verrous aussi qu'on fera sauter et qu'on pourra arriver à passer outre ces problématiques-là. En revanche, la question est encore, est-ce que c'est efficace ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'avoir un drone patrouilleur ou est-ce qu'une personne présente dans la foule ne peut pas passer un coup de fil en disant « il y a un problème » et appeler la police ? Ça serait tout aussi efficace.
Oui, effectivement. Alors, on va rendre aux drones ce qui leur revient de droit, parce qu'effectivement, je leur en ai mis quand même pas mal sur les hélices aujourd'hui, mais il y a quand même pas mal d'utilisations très positives des drones aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire un petit point là-dessus sur éventuellement quelques initiatives à saluer et qui utilisent les drones ?
Sur les drones, on est dans une kyrielle d'usages extrêmement spécialisés où, du fait de leur légèreté, de leur facilité d'emport, du peu de coût que représente un vol, ils apportent un plus et ils fournissent un service qu'on n'avait pas avant. Donc, par exemple, quand vous devez aller examiner le tablier d'un pont à 80 mètres de haut, soit vous risquez potentiellement la vie de quelqu'un dans une nacelle, soit vous envoyez un drone qui va pouvoir s'approcher très près et regarder la structure du pont et vérifier son intégrité. Quand vous devez parcourir des centaines de kilomètres de caténaires pour surveiller si on n'a pas un qui est cassé, vous envoyez un drone avion, il survole, il fait ça toute la journée, il le fait très bien et vous récupérez les images à la fin de la journée. Après, ils permettent aussi d'aller dans des endroits potentiellement dangereux. Je pense en volcanologie, par exemple. Vous pouvez envoyer un drone dans les fumerolles d'un volcan au milieu des gaz toxiques pour faire des prélèvements et récupérer comme ça des échantillons sans mettre en danger la vie des scientifiques. J'ai vu récemment aussi une utilisation pour étudier les virus des baleines. C'est-à-dire, vous envoyez les drones au-dessus des baleines et quand la baleine crache son geyser d'eau, vous faites passer le drone au travers, il a une petite boîte de pétri qui se referme au moment où il passe et vous avez des échantillons comme ça qui sont collectés. Et après, on a beaucoup d'usages comme ça extrêmement intelligents. Vous mettez une caméra thermique dessus et vous pouvez repérer sur un bâtiment où sont les déperditions énergétiques ou alors où est un départ de feu. Il y a des services de pompiers qui utilisent ça. Vous pouvez vous en servir pour retrouver des personnes perdues en forêt par imagerie thermique en survolant des zones. Donc, on a comme ça tout un tas d'usages, parfois très insolites. On avait parlé d'un dispositif qui permettait à l'aide d'un drone de repérer les terriers de campagnols et donc de mettre spécifiquement les produits rodenticides à ces endroits-là et pas en mettre partout dans la nature pour traiter les champs, voilà, ou pour protéger les fonds qui se cachent dans les champs avant le moissonnage et qui ont tendance à passer sous les moissonneuses batteuses. Voilà, vous les repérez par imagerie thermique et vous pouvez les isoler avant de passer la moissonneuse.
Et ben on termine sur une note quand même super choupie. Nous approchons effectivement la fin de cet épisode. Un grand merci à mon copilote du jour, donc Erwan Lecomte. La compagnie 6ème Science espère que vous avez passé un bon vol. Pour vos correspondances, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre chez votre libraire et embarquer avec Science et Avenir. Si vous avez apprécié le voyage, sachez que le prochain vol de 6ème Science décollera dans un petit mois. On est présent sur tous les aéroports podcastiques, Pipa, Deezer, SoundCloud, iTunes et bien sûr toutes les applications de balado-diffusion Android comme iOS. On envoie de la science dans tous les sens.
2,21 gigawatts, mon Dieu!
Recherche, scanner.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ?
Chut, Jamie, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
6ème Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.